Une assemblée qui aurait perdu Christ pratiquement est évidemment une assemblée rejetée, disqualifiée, à moins qu'elle se juge. C'est une des raisons pour lesquelles, comme on vient de nous le dire et combien et nous insistons un peu en pensant aux jeunes qui n'ont pas l'occasion ni le temps de s'occuper de ces choses, pourtant d'une importance capitale pour des chrétiens, sur le fait que nos conducteurs ont eu en effet à faire face à des situations de ce genre et à renoncer à des relations qui leur étaient très chères avec des frères qui, un temps, avec lesquels un temps ils ont eu des profondes communions. Il a fallu rompre avec cela. Mais ils aimaient tellement le Seigneur que leur choix ne pouvait pas ne pas être fait, comme le Seigneur désirait qu'il le fût. Retenons cela dans le détail de nos propres existences, chacun pour son compte. Sœurs et frères, le christianisme général, les vérités générales, c'est rien. Le vent souffle, ses limites soufflent là-dessus, il n'en reste rien. Ce sont les vérités reçues, et on peut dire qu'ils coûtent, qui prennent leur valeur dans l'âme, et qui lient l'âme à Christ. Pas seulement pour le salut, pour le progrès.
L'enseignement et les exhortations données ici le sont à l'occasion de doctrines dangereuses, à l'occasion de fausses doctrines, de la parole de gens qui, s'écartant de la vérité, enseignent et finissent par enseigner ce qui détruit la vérité, renverse la foi de quelques-uns. Leur parole, nous est-il dit, un frère faisait remarquer tout à l'heure cela, que par opposition à la parole de la vérité, il est dit d'hyménée Silète, qu'ils se sont écartés de la vérité, et leur parole rongera comme une gangrène. Au lieu d'être la parole de vie, la parole vivifiante, parce que la parole de la vérité, la parole présente en Christ qui est la vérité, c'est une parole destructive, une parole de mort, une parole rongeant peu à peu les tissus vivants, mais les faisant mourir. La foi étant renversé. Donc, il s'agit ici du mal, ce que nous appelons avec raison, le mal doctrinal, présenté comme le grand danger. Et c'est bien toujours le cas. Comme il vient d'être rappelé, le mal moral n'est pas exclu, bien loin de là. Mais sur le mal moral, les péchés apparents, les péchés grossiers, hein, surtout ceux auxquels on pense le plus communément, eh bien, tout le monde est d'accord, plus ou moins d'accord, mais enfin, personne ne voudra soutenir que le mal moral n'est pas un mal. Mais si la tolérance du mal est admise, et admise comme un principe, alors ce n'est plus seulement de mal moral qu'il s'agit, c'est bel et bien d'un mal doctrinal et de la pire espèce, de sorte que la distinction de l'un à l'autre existe sans doute, mais il n'y a pas des catégories si tranchées de mal. L'iniquité, encore une fois, c'est toujours la manifestation de la volonté de l'homme contraire à la volonté de Dieu.
Il y a des chrétiens authentiques dont la chrétienté qui ont nourri et nourrissent encore l'espoir d'arriver à mettre de l'ordre dans bien des endroits. Cela ne veut pas dire que quand un mal se manifeste dans une assemblée, il faille immédiatement prendre des mesures. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a là un exercice dans lequel le Seigneur conduira les saints pour considérer ce mal devant lui et lui demander comment s'en occuper, s'attendre à lui pour que ce mal soit ôté d'une manière ou d'une autre, que lui le fasse disparaître directement ou en se servant des saints eux-mêmes. Mais quant à Mère Tadelord en général, dans la chrétienté, non. Il y en a qui y pensent encore, et je pense à un fait qui s'est produit il y a peu d'années, quelque part, d'un quelqu'un qui est un serviteur, probablement un chrétien, et qui probablement n'a pas lu ces versets-là, on ne s'est pas arrêté à cela, qui s'est séparé de l'iniquité. Il a pensé qu'il pourrait faire front au mal moral, un mal moral dans le monde et dans une scène très très mondaine, d'une très mauvaise mondanité. Et il est entré dans cette scène-là et avec la pensée qu'il pourrait mettre sur le champ mettre un terme à la réalisation de scènes aussi odieuses, où la corruption, sans doute, je n'ai pas de détails, devait s'étaler. C'était plutôt quelqu'un qui était responsable et probablement un chrétien. Mais la chose a tourné à sa confusion. Et s'il avait lu l'Écriture, il ne serait jamais allé attaquer Satan dans son repère. Et le Seigneur ne nous demande jamais cela. Et il vaut bien mieux avoir beaucoup de précautions pour se séparer du mal dans le détail, pour n'avoir pas à le rencontrer quand il est devenu quand il prend des dimensions importantes.
Dans un sens, nous avons ici l'inverse de ce qui est demandé à une assemblée comme telle. Je veux dire que l'Assemblée est appelée à ôter le méchant du milieu d'elle. Enseignement du chapitre 5, la première épître aux Corinthiens. Ici, il s'agit du fidèle, de quelqu'un qui veut être fidèle au Seigneur, qui reconnaît les droits du Seigneur et qui se sépare et qui se retire de l'iniquité. Et ensuite, le Seigneur pourvoira à ce qu'il peut désirer quant à un rassemblement avec d'autres.
La question du vase à déshonneur et de la façon dont on a à s'occuper de lui est évidemment différente du fait d'avoir à s'occuper d'un péché dans l'Assemblée. C'est autre chose. On a donné aussi deux exemples de ces vases à déshonneur dont on peut avoir à s'occuper de la manière dont il est dit ici. Par exemple, quelqu'un qui enseigne la vérité, mais dont la moralité est douteuse et mauvaise. Il peut parler la vérité, mais il marche mal. Il y a dans sa conduite quelque chose qui laisse à désirer. C'est un vase à déshonneur. Inversement, quelqu'un dont la conduite est excellente, mais qui enseigne de mauvaises choses, c'est encore un vase à déshonneur.
Les vases, ce sont donc des personnes. Non pas seulement, comme cela a été quelquefois avancé, non pas, comme cela a été quelquefois avancé, des choses, choses mauvaises, le mal en lui-même, ce sont bien les personnes dont on doit se purifier, desquelles on doit se tenir à part.
Voyez-vous, il faut le dire sans hésiter, ce qui est pour nos jeunes surtout difficile à accepter parce que difficile à comprendre. C'est le sens précis, dans son application pratique, de cette expression se purifier des vases à déshonneur. Récemment, un frère qui ne manque pas d'expérience, à propos de ce qui a été évoqué ce matin, la douleur, les réels sacrifices qui se sont imposés à ceux qui nous ont ouvert le chemin, on la comprend. Même, disait-il, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas aussi présentement, pour certains de nos jeunes amis et même de nos jeunes frères, une souffrance réelle quand la nécessité s'impose à eux par fidélité au Seigneur, non peut-être pas de rompre des relations fraternelles, mais de prendre une position entièrement différente de chers chrétiens dont ils apprécient le sérieux et la marche. Se purifier des vases à déshonneur. Il faut penser, pour ce qui est une marche collective, il faut penser à ceci. Est-ce que l'expression sera juste, je l'espère, est un vase à déshonneur. Un croyant qui, se mettant comme règle sa propre conscience, mis au contact de la vérité de Dieu, sans les expériences qui le conduiraient précisément à sentir les droits du Seigneur sur lui et à se retirer de l'iniquité, reste encore lié à un système, à un enseignement dont on sait bien qu'il comporte, à l'égard même de la personne du Seigneur, quelque chose qui n'est pas selon la vérité. Je pose la question. Mais je sais qu'il y a des exercices réels et à l'égard desquels nous devons avoir une sympathie compréhensive dans le cœur de jeunes croyants qui ont de la paix à saisir dans son sens scripturaire cette expression vase à déshonneur. On nous a dit, et la chose est claire, que ici il s'agit moins de la qualité du vase, et nous rencontrons des vases de qualité participant de la vie même du Christ, qui sont fidèles selon ce qu'ils ont compris et qui désirent honorer le Seigneur. Il s'agit moins de la qualité du vase que de l'usage que le maître de la maison peut en faire. Autrement dit, de l'utilité qu'a le vase pour lui. Il semble que placé dans ce contexte, et c'est la parole même, on sent ici les droits du maître de la maison. Dans une grande maison, il y a un maître. Qu'est-ce que le maître peut faire d'un vase qui n'est pas, selon notre jugement, pleinement utile normalement, parce que ses liens spirituels, son engagement ecclésiastique ne correspond pas à ce que nous avons ici comme seconde face du sceau, qu'il se purifie de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Si cette question, car c'est plutôt une question que je pose, au nom, j'en suis sûr, de pas mal de jeunes chrétiens ici, si cette question peut être à l'origine d'explications et d'exhortations, mettant ce passage à sa place et lui laissant toute sa force, je crois que cette intervention peut être utile.
Cela répond bien à la préoccupation de beaucoup de jeunes chrétiens, de nos assemblées, qui aiment le Seigneur, qui désirent le servir, et qui pensent que pour servir le Seigneur utilement, il leur faut avoir les coudées plus franches. Eh bien, pour être un vase utile au maître, ce n'est pas ce que nous pouvons faire nous, mais c'est ce que le maître peut faire par notre moyen. Pour être un vase utile au maître, il faut d'abord réaliser ce qui est dit ici. Si quelqu'un se purifie, alors il sera un vase utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Que ces chers jeunes ne pensent pas que qu'ils peuvent servir le Seigneur utilement dans un chemin d'indépendance. Ils pourront déployer peut-être plus d'activités. Il y aura peut-être des choses plus spectaculaires, mais la parole de Dieu est formelle. Un vase utile au maître, c'est un vase sanctifié. C'est-à-dire, c'est pas.
Nous ne portons pas un jugement sur la qualité du vase. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et, ajoutons-le, c'est pour nous un grand sujet de reconnaissance. J'ajouterais même un signe des temps encourageant de constater que dans tous les milieux chrétiens et dans certains milieux où peut-être nous eussions hésité à dire que lié à un tel enseignement, que enseigné par une telle Jézabel, il puisse y avoir là des vases à honneur. Mais le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et au milieu d'une corruption qui va amener, nous le savons bien, un jugement sans miséricorde, parce que la Babylone vers laquelle tend l'œcuménisme présent va correspondre à celle qui sera précipitée du haut de son élévation et sanctionnée des plus terribles jugements. Mais il y a là des croyants, et quand nous les rencontrons, je dirais que nous ne sommes pas tellement tentés de les suivre. Tout en reconnaissant leur fidélité, il n'y a pas pour nous, à cet égard, je dirais, un piège. Ce sont d'ailleurs des relations qui cessent comme d'elles-mêmes. On ne peut pas aller très loin avec ces croyants-là. Mais la question que nous avons essayé de poser, d'élucider, elle a trait précisément au danger actuel que courent des jeunes frères manquant plus d'expérience que de bonne volonté, de penser que nous avons des lisières, nous sommes là dans des situations tellement étroites, Alors que on dirait, mais ça finit par être du sectarisme. Prenez garde, chers jeunes amis. Et pour ce qui est de la manifestation d'un témoignage collectif, souvenons-nous de ce que disait le père même du cher Samuel Prodan. Si vous désirez savoir ce qui caractérise telle et telle table dressée, remontez avec soin à la source. Et vous trouverez à quel moment l'eau s'est trouvée polluée, en quelque mesure rendue impropre. Nous avons besoin, dans ce qui est de la marche collective, de nos liens spirituels. Et pour préciser, pour ce qui est de l'annonce de la mort du Seigneur à sa table, de la plus grande prudence et d'une entière dépendance. Il y a des questions qui ont troublé les générations précédentes, à l'égard desquelles ceux que le Seigneur dont le Seigneur avait fait des conducteurs, ont pris une position dont nous avons vérifié par la suite qu'elle était, selon Dieu, des développements ultérieurs de ce qui était à l'origine la source polluée. Disons le mot, de véritables hérésies. Cela vient au jour. Et nous bénissons Dieu d'avoir été gardés par lui dans le chemin d'une véritable séparation. Je ne pense pas que nous ayons à nous étendre davantage, mais c'est pour moi le souci, c'est pour nous le souci que nous prenons de certains états d'âme dans lesquels se trouvent engagés de chers chrétiens que nous aimons et que nous sentirions en danger si nous n'étions sûrs que le Seigneur peut mettre autour d'elle la barrière de protection. Et cette barrière, c'est la soumission à la parole, c'est l'obéissance implicite, celle qui s'abandonne au Maître pour que nous soyons gardés dans un chemin qui est un chemin étroit, mais où nous avons la possibilité de conserver des cœurs au large. Pour ce qui est des manifestations de la vie divine.
L'appréciation du travail par le Seigneur ne correspond pas nécessairement, tant s'en faut, avec celle des hommes, même chrétiens, vrais ou seulement professants. Nous citons un exemple dans la parole de Dieu, c'est Néhémie. Le travail qu'il fait aux yeux des hommes est un travail insignifiant, puisque l'on dit, mais si un renard montait sur cette muraille, il parviendrait à la faire crouler. Mais ce travail de séparation, de protection du peuple de Dieu, sa mise à part, gêne l'ennemi. D'où les pressions exercées sur cet homme de Dieu pour lui faire abandonner ce travail. Et les messages répétés parviennent auprès de lui, les sollicitations pressantes. Viens, rencontrons-nous ensemble dans les villages de la vallée d'Ono, c'est-à-dire la vallée des artisans, où, comme notre frère le disait tout à l'heure, on a vraiment les coudées franches. C'est une vallée, la vallée des artisans. Nous pouvons là travailler tous ensemble et apparemment faire beaucoup de choses qui ont, aux yeux de l'homme, beaucoup d'importance. Mais que répond Néhémie ? Aux yeux des hommes, c'est un bien faible travail. Un renard parviendrait à le mettre à bas. Mais voici la réponse de cet homme de Dieu. Je fais un grand travail et je ne puis descendre. Pour lui se joindre dans la vallée d'Ono avec tous les artisans, c'eût été descendre, c'eût été abandonner le travail apparemment faible aux yeux des hommes que Dieu lui avait confié, mais aux yeux de Dieu, c'était un grand travail. Je fais un grand travail, pas apprécié par l'homme, mais tel il est pour Dieu, un grand travail en faveur de son peuple, de sa bénédiction, de sa mise à part, et puis je ne puis descendre.
Pour les jeunes,
dans les assemblées, le problème d'aujourd'hui est celui des jeunes de tous les temps. Tout de même, il est devenu du sérieux, on le comprend. Mais peut-être d'abord en cela, y a-t-il un appel à chaque rassemblement pour que le Seigneur exerce tous les saints, afin que les réunions soient heureuses. Quelqu'un d'heureux est quelqu'un qui ne donne pas de difficultés, quelqu'un d'heureux en Dieu. Il n'a pas cet état maladif de quelqu'un qui n'est pas satisfait. Ils sont chrétiens, authentiques. Il y a un appel à nous tous dans nos réunions, rassemblements, pour demander au Seigneur qu'il nous donne des réunions heureuses. Chaque réunion. Est-ce que tout le monde, frères et sœurs, prie pour cela, pour chaque réunion? La présence de Dieu fait taire la chair, il n'y a qu'elle. Et ce qu'il peut y avoir de charnel dans ces tendances de jeunes, et à leur insu, il peut y en avoir, tout cela peut être contenu par ce que donne, ce qu'apporte la présence sentie du Seigneur. Et les réunions ont une importance fondamentale, de même d'ailleurs, bien entendu, que le climat familial. Sinon, l'âme est mécontente, non, chez un chrétien authentique, et en particulier un jeune. Elle cherche à droite, elle cherche à gauche. En second lieu, et ceci est de tous les temps et de tous les lieux, et c'est toujours le cas. Il n'y a encore une fois que la présence de Dieu qui élimine pratiquement la chair, le moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Ensuite, pour cette jeunesse, et d'abord, supposons qu'il s'agit de croyants véritables. Il faut nous garder de prononcer à la légère une expression telle que celle de vase à déshonneur, bien sûr. On l'employait avec beaucoup de prudence, comme toute l'écriture d'ailleurs, beaucoup de sagesse.